France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon.
Et notre invité ce matin, Christophe Rousset, bonjour.
Bonjour Olivier.
Vous êtes le directeur artistique des Talents Lyriques Clavecinistes et les Talents Lyriques que vous avez fondés en 1991. À défaut de concerts, vous avez une riche actualité discographique. 4 disques sortis depuis le mois de mars dernier. Stabat Mater de Pergolèse avec Sandrine Pio et Christopher Lorray. Et puis en septembre, l'unique oratorio Betulia Liberata de Mozart, toujours avec les Talents Lyriques. Et puis vous seul au clavier dans des pièces pour clavecin d'Armand Louis Couperin et également un disque à venir dans quelques jours qui paraît chez Aparté, un double disque Armida d'Antonio Salieri. Nous allons en écouter en avant-première quelques extraits, vraie avant-première puisque c'est la première fois que cette œuvre est gravée au disque. Christophe Rousset, vous avez déjà sorti de l'oubli d'autres opéras de Salieri, Tarare en 2018 et puis toujours de lui Les Horaces en 2016. Vous êtes un ardent défenseur de sa musique. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans la musique d'Antonio Salieri ?
Vous savez, moi, depuis le début des Talents Lyriques en 91, je défends un petit peu les causes perdues. Donc, je fais l'avocat des causes désespérées. Et effectivement, Salieri est dans l'ombre de Mozart depuis toujours. Et le film de Miloš Forman n'avait pas arrangé les choses. En fait, à chaque fois que j'ai touché Salieri, je le touche depuis bien longtemps. On avait commencé avec une Grotta di Trofonio, qui est un drama giocoso dans le style des Da Ponte Mozart. J'avais été frappé par son inventivité. En fait, c'est quelqu'un qui invente énormément. Et effectivement, dans les opéras français, puisqu'il en a écrit 3, les Danaïdes, les Horaces et Tarare que vous avez cité à l'instant, qu'on a enregistré tous les 3, sont des chefs-d'œuvre. En fait, ce sont vraiment des œuvres incroyablement inventives. Ils trouvent toujours des solutions différentes et surtout, ils regardent vers l'avenir. L'Armida qu'on vient de graver était, disons, l'aspect qu'on n'avait pas encore creusé, puisque c'est l'opéra seria, et l'opéra seria réformé, c'est-à-dire celui qui vient de Gluck et de Traetta, et qui casse la forme qu'on peut connaître chez justement les premiers Mozart ou Jomelli ou les Handel, etc. Il y a en général une alternance entre un récitatif secco au clavecin et puis un air à da capo qui est en général de grande virtuosité. Là, la forme est totalement cassée, il y a des chœurs, il y a des danses, donc on s'inspire de l'opéra français et surtout des récitatifs accompagnés en grande quantité et puis des formes d'air qui ne sont plus des airs à da capo. Et donc il y a dans cette œuvre Armida une incroyable profusion d'idées qui m'ont vraiment ébloui et une force dramatique tout à fait particulière avec juste combien il y a 4 personnages et un chœur et il y a une intensité incroyable, des contrastes très forts. Vous avez dit que ça n'avait pas été enregistré. C'est vrai, c'est la première mondiale, mais il y avait quelques airs qui avaient été enregistrés par Bartoli, Cecilia Bartoli, sur son disque Antonio Salieri, puisque elle aussi a voulu défendre cet auteur un petit peu mal aimé.
Salieri sur France Musique à 8h34.
Thank you.
Le chœur de chambre de Namur et les talents lyriques et quatre voix solistes que l'on n'a pas entendu là à l'instant mais que l'on va citer du disque, Lenneke Reuten, Florie Valiquette, Teresa Iervolino et Ashley Riches sous la direction de Christophe Rousset, notre invité ce matin. Un extrait de la première scène d'Armida de Salieri, disque qui paraît dans quelques jours le 22 janvier chez Aparté et un livret de Marco Coltellini. Salieri avait 21 ans quand il a composé à cet opéra Seria. Christophe Rousset, l'enregistrement a eu lieu en juillet 2020. Une chance, un tour de force de pouvoir le faire.
Absolument.
Cet enregistrement.
Ça a été vraiment un tour de force. C'était grâce à notre sponsor principal, Aline Foriel d'Estezé, qui nous a aidé à réaliser ce projet. Et puis, le tour de force, c'était évidemment d'avoir toutes les conditions sanitaires. Mmh. Ça veut dire la distanciation, les 4 mètres entre les solistes et l'orchestre. Les distanciations dans les chœurs étaient très 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 loin de moi, c'était vraiment pas facile de se mettre ensemble dans des conditions inédites qu'on n'avait jamais travaillé comme ça. Mais en même temps, après ces mois de confinement, tout le monde était tellement heureux de faire de la musique ensemble que ça a fait aussi une concentration particulière et une joie, une volonté de bien faire qui était commune à tout le monde.
Un très beau disque donc qui paraît dans quelques jours chez Aparté. Christophe Rousset et les talents lyriques, vous avez fait résonner à la Philharmonie de Paris en 2015 l'Armide de Lully. En 2021, ça semble très compromis pour l'Armida de Salieri, un concert prévu le 7 février. Vous étiez, Christophe Rousset, le 15 décembre à la manifestation Place de la Bastille à Paris pour défendre le monde de la culture. Comment vous êtes là actuellement par rapport à tout ça?
Écoutez, par rapport au monde de la culture, on a en comparant avec les autres pays, ce que je veux dire, c'est qu'on se plaint beaucoup en France et ça m'agace beaucoup d'écouter les radios et d'entendre tout le temps aux informations des gens qui se plaignent de tout. Je pense que la France se défend très très bien et surtout elle défend extrêmement bien ses artistes, même si évidemment il y a des laissés pour compte et évidemment c'est compliqué pour tout le monde, mais il y a des situation bien pire et j'ai pas mal de collègues aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Espagne qui vraiment peinent beaucoup plus que nous et qui n'ont pas le chômage partiel. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Je veux pas hurler avec les loups, je veux continuer d'y croire et de me dire que peut-être même le concert qu'on a prévu à la Philharmonie le 12 janvier avec du Lully sera maintenu. On ne sait pas, on verra bien. Mmh. Pour l'instant, en tout cas, il n'a pas été annulé officiellement. Et donc, on continue d'y croire. Évidemment, c'est très très difficile pour nous de nous taire. Donc, moi, j'ai la chance d'être instrumentiste, de pas être seulement un chef d'orchestre. Et donc, je peux travailler mon clavecin et je peux faire de nouveaux projets. D'ailleurs, j'ai enregistré récemment 3 disques que j'ai préparés pendant le premier confinement. Donc, c'était l'occasion d'être actif sur le deuxième confinement et puis mettre à profit le premier, en tout cas avec de nouvelles œuvres que j'ai abordées, alors que peut-être que je les aurais jamais abordées avec le rythme de travail que j'avais jusqu'à maintenant.
Et pour revenir aux talents lyriques, comment ça se passe financièrement pour votre ensemble indépendant, les talents lyriques? Est-ce que vous avez des aides de la part de l'État?
Les aides, oui, le chômage partiel en particulier. Et il y a d'autres dispositions qu'on est en train d'étudier pour effectivement continuer à essayer de sauver notre structure. Et puis surtout, on a les sponsors dont je vous ai parlé, Madame Foriel d'Estezé, qui reste près de nous malgré la situation.
C'est très précieux.
Et ça, c'est très très important. Et on a fait appel aussi à un certain nombre d'autres mécènes pour justement les inciter à continuer à nous soutenir pour nous sauver de cette situation qui est quand même inédite et compliquée, évidemment.
Jean-Baptiste Urbain, vous avez interviewé ici même lors du premier confinement en avril dernier, comme tous les musiciens évidemment, le manque du contact avec les autres musiciens et le public. Vous disiez même dans un interview au Monde en 2017, on repart un peu loin, je rappelle qu'aux pires époques de l'humanité, l'art n'a jamais cessé d'être une nécessité absolue.
Et Ça continue. Je pense que la nécessité, elle reste. Évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, alors que les opéras continuaient de jouer, ou pendant la Révolution française, pendant qu'on continue à jouer de l'opéra et que les têtes tombaient, la situation était différente, surtout parce qu'il y avait pas autant les disques, quoi. Il y avait des disques pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était pas comme aujourd'hui, où avec cette espèce de facilité d'accès, les plateformes, on a tous de la musique autour de nous, les radios sont très très présentes, ça permet au moins à la musique d'exister dans nos vies. Mais la différence entre des haricots en boîte et des haricots frais, c'est quand même abyssal. Et je dirais que c'est la même chose avec la musique. Quand vous n'avez pas le contact avec l'artiste, quand vous n'avez pas la joie d'avoir directement les décibels qui arrivent vers vous, les sonorités de l'orchestre, les sonorités de la voix, c'est pas la même chose qu'un disque, ça sera jamais le cas, et donc j'incite évidemment tout le monde à retourner au concert au plus vite dès qu'on pourra réouvrir les salles.
Les tendres sentiments sur France Musique à 8h46 d'Armand Louis Couperin avec au clavecin Christophe Rousset, notre invité ce matin. Quelle beauté, quelle merveille de délicatesse.
C'est la dernière école française pour le clavecin. Donc on est dans les années 1750 et effectivement il y a une tendresse incroyable. Il y a évidemment la tendresse qui est héritée de son grand-oncle François Couperin. Et puis aussi un sens harmonique et un univers qui fait penser beaucoup plus à Rameau qu'à François Couperin. Donc c'est effectivement une musique très séductrice sur un très bel instrument, très joliment capté pour ce disque. Donc j'en suis très content.
Vous jouez sur quel clavecin? Et d'ailleurs ce disque est paru donc en septembre chez Aparté, 22 pièces en tout. Quel clavecin?
C'est un Goujon Svanen de la collection du Musée de la Musique.
Et ce sont des pièces qui ont été dédiées à Victoire de France, la cinquième fille de Louis XV, et qui exploite justement, je trouve, en tout cas, cette richesse sonore du clavecin français. Où est-ce qu'elle en est la facture à ce moment-là en France?
Ben, on est arrivé à l'apogée, en fait. On est vraiment dans ce qu'on fait de plus beau. Les Tasquins, les Hemsch, justement Goujon, on est dans les clavecins les plus raffinés, les plus sonores, les plus flexibles. Et c'est sûr que la facture française inspire les factures européennes, les autres. C'est considéré comme ce qu'il y a de mieux au 18e à l'époque.
Christophe Rousset, un disque pour lequel vous avez été nommé pour les prochains International Classical Music Awards dans la catégorie baroque instrumentale. Alors on va revenir un peu à l'actualité et puis ces concerts qui n'ont pas lieu. On sait avec les talents lyriques que vous êtes très investi dans les rencontres avec le public, plus ou moins jeune. Vous organisez des concerts commentés, des concerts rencontres avec des classes, des collèges pour des échanges. Et puis, il y a cette triple application Talent School qui permet de découvrir la pratique instrumentale. Les trois applications, c'est jouer ensemble, composer, interpréter. Comment vous avez pensé à cela, Christophe Rousset?
Il faut se renouveler. Et on a été en contact comme ça avec des informaticiens un peu géniaux, des geeks qui nous ont menés comme ça vers des univers qu'on n'imaginait pas possibles. Et donc par ces applications, effectivement, on fait découvrir l'interprétation d'un prélude non mesuré de musique française au clavecin, donc que je joue moi-même, et puis c'est la personne qui utilise l'application qui s'amuse à faire sa propre interprétation. Il y a la possibilité de découvrir l'orchestre par l'intérieur et de comprendre comment l'orchestre est constitué, et donc de séparer les différentes voix de l'orchestre. Vous avez les violons, les altos, les contrebasses, les violoncelles, le clavecin, le luth, etc. Tous les instruments sont séparés, ils sont filmés, et donc on peut faire jouer une classe comme si c'était un orchestre, avec un chef d'orchestre qui donne le départ et tout le monde qui appuie sur sa tablette pour faire partir l'instrument dont il est le détenteur. Donc c'est très très amusant, c'est très ludique et ça fait comprendre la musique par l'intérieur, ce qui nous a semblé très très intéressant, et ça a beaucoup de succès auprès des jeunes gens, mais pas seulement. D'ailleurs, ça peut être utilisé par les adultes, et en tout cas c'est un téléchargement gratuit, donc si vous voulez vous amuser vous-même.
Talent School. Et en ce moment particulièrement important, j'imagine, parce que comme les élèves ne peuvent pas recevoir dans leur classe des intervenants, des musiciens.
On était intervenu quand même il n'y a pas si longtemps.
Cet automne?
Oui, cet automne, et ça marche toujours extrêmement bien. C'est vraiment toujours très émouvant des deux côtés. Je pense que eux, ils sont très très intéressés et étonnés de voir la musique en vrai qui se fait devant eux, et éventuellement venir tout près de nous, et enfin évidemment pas moins d'un mètre en ce moment, et avec des masques, mais le contact avec la musique qui se fait est une chose très très émouvante pour eux. Et puis éventuellement la pratique instrumentale, c'est-à-dire qu'on les initie aussi à la pratique instrumentale, en tout cas, évidemment pas toutes les classes, mais on fait ce qu'on peut, et on les fait chanter, on les a même fait danser une fois. C'est toujours très 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 amusant et très émouvant, je vous dis.
Christophe Rousset, une autre nouveauté de disque, on en parlait, grande actualité discographique, Betulia Liberata de Mozart, son unique oratorio achevé. En voici l'ouverture instrumentale. 8h54 sur France Musique, l'ouverture de l'oratorio Betulia Liberata, Köchel 118 de Mozart, interprété par les talents lyriques sous la direction de Christophe Rousset, avec également dans ce disque le chœur Accentus. Christophe Rousset, notre invité ce matin. Cette œuvre date de 1771, Mozart avait 15 ans. 1771, c'est d'ailleurs la même date que la composition d'Armida.
Absolument.
De Salieri. Oui. Il y a quelque chose de très dramatique dans cette musique. Comment vous sentez, Christophe Rousset, ce que ça montre d'intéressant dans l'évolution du discours musical du compositeur? Est-ce que c'est comme un laboratoire ou est-ce qu'au contraire il y a déjà des choses très acquises?
Eh ben c'est un petit peu les deux, oui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses qui sont tout à fait acquises et qui sont sa personnalité. On retrouve des thèmes dans la Betulia qui sont éventuellement des thèmes de mouvement lent de concerto de piano de la période plus tardive. Et puis par ailleurs, comme dans cette ouverture, même si elle semble extrêmement personnel. En fait, c'est un style qui vient de l'Empfindsamkeit allemande et de Naples. En fait, il fait une espèce de symbiose de ces éléments germaniques et italiens. Et il en fait une synthèse qui est tout à fait personnelle. Et c'est peut-être ça qui fait son succès en Italie quand il y arrive dans les années 70. Donc avec d'abord le Mithridate, cette œuvre-là, et puis le Lucio Silla ensuite. Je pense que c'est ce côté germanique et pré-romantique qui a beaucoup plu aux Italiens à l'époque, oui.
Christophe Rousset, il est déjà l'heure de nous quitter. Je rappelle donc que ce disque-là, Betulia Liberata de Mozart, est sorti il y a quelques mois sur le label Aparté. Et puis nous allons avoir le plaisir quand même de réécouter une nouvelle plage de ce disque Armida qui sort dans quelques jours, toujours chez Aparté. Cette fois-ci, un aria. On en parlait tout à l'heure. Armida, ici interprété par la soprano Lenneke Reuten, avec les talents lyriques et Christophe Rousset à la baguette dans cette air, à Ami Tolga Almen la Vita, que par pitié pour ma douleur, il m'ôte donc la vie. Un grand merci d'avoir été avec nous, Christophe Rousset.
Merci à vous, Gabriel.
D'Armide à Ami Tolga Almen la Vita, un extrait de ce disque Armida d'Antonio Salieri, interprété à l'instant par Lenneke Reuten, soprano, accompagné par les talents lyriques sous la direction de Christophe Rousset.
À réécouter sur francemusique.fr.